Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 63e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken, la saison 3. Aujourd'hui, je reçois un ami de longue date, l'extraordinaire comédien Mustapha Benaïbou, dont je rappelle tout le CV plus bas dans mon poème. Enfin, pas tout le CV qui est immense, mais une partie. Code promo, j'ai un code promo pour vous, mes petites burnes. Je l'ai mis en description du dernier épisode avec Kevin Razi, que vous avez beaucoup aimé, j'en suis très contente, j'ai eu de super retours. Et donc le code promo, c'est ROSAFANS, à mettre sur le site de la nouvelle scène. Voilà. Pour rappel, je joue tous les vendredis et samedis à 21h jusqu'à fin décembre et ça me ferait très plaisir de vous rencontrer à cette occasion. J'ai eu la joie d'avoir des auditeurs et auditrices d'Hotline dans la salle la semaine dernière et c'était vraiment très cool. La première et la deuxième se sont hyper bien passé, un délice, cette salle est juste sublime et j'y suis très bien accueillie, j'y suis chérie, c'est un bonheur, je me sens aimée là-bas. Petit disclaimer pour cet épisode, je dis maladroitement que je voulais participer au podcast de Seb Melia, 4 comiques dans le vent, pour remplir ma salle, mais c'est avant tout parce que je suis une vraie fan de ce podcast et que j'ai vu tous les épisodes sur YouTube. Certains sont cultes, notamment celui avec Baptiste Le Caplin, incroyable. Et Seb est un ami, un vrai allié du stand-up. Il m'a fait un cadeau incroyable en m'invitant et j'espère moi aussi faire un cadeau à Mustapha, enfin que si vous le connaissez pas encore, vous irez le découvrir. Notamment ses cartoons sur Insta. Mais avant, bonne écoute. Putain, j'ai tellement mal. Beaucoup. Parce que je transporte des trucs trop lourds et comme je fais jamais de sport, j'ai aucune force dans mon corps. Et donc, d'accord. Résultat, j'ai toujours mal partout, quoi.
D'accord.
J'ai 150 ans, mec.
Ouais.
Bon, je t'ai écrit un petit poème, Mustapha.
Ah bon ?
Oui.
D'accord, bah ça me fait plaisir.
Mustapha. Mustapha est comédien, auteur, youtubeur et metteur en scène. Il a été formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, puis a beaucoup joué dans le théâtre public et il joue encore aujourd'hui, ce qui est assez rare. En général, on sort du cons, on travaille pendant 2-3 ans, puis enfin, quand on fait partie du JTN, le Jeune Théâtre National, puis ça se complique. Or, ça ne s'est jamais compliqué pour Mustapha, qui a enchaîné des projets, entre autres avec Olivier Pie, Nicolas Lyotard, Clément Poiré, Guillaume Vincent. Il a mis en scène Nosgoth et s'est fait connaître du grand public par ses rôles incroyables dans les vidéos du collectif YouTube « Yes, vous aime ». Aujourd'hui, plus actif via les pastilles broutes diffusées sur Canal+ et les réseaux sociaux. En solo, Mustapha publie des vidéos d'animation très rigolotes et repartagées par Angèle elle-même. Mustapha est mon ami depuis plus de 10 ans. On a fait partie du même collectif d'impro, les Soirées Plaisantes, dont faisaient aussi partie Louise Coldefy et Johan Cuny, membres de Yes Vous Aime. J'ai moi-même participé à un projet de Yes, le fake talk show pour, dans les Dramélie, mm-hmm. pour Comédie Plus. Mm-hmm. Mais c'est surtout en répétant pour les spectacles des soirées que Mustapha et moi sommes devenus amis. Il y a eu La vie rêvée des profs, puis Un dimanche après Drucker. Ce sont mes plus beaux fous rires, voilà, de toute ma vie et des moments de folie. J'adore Mustapha, sa gentillesse. Il fait danser toutes les filles à chaque soirée. Combien de rock endiablé dans ta coloc à Montreuil. On a été très proches, on s'est un peu éloignés, normal, la vie faisant. Mais quand on dîne ensemble, on se retrouve, on se raconte nos galères de cœur. Quand tous nos amis font des gosses, nous, on erre encore. Mustapha me connaît mieux que personne. Enfin, mieux que mes camarades humoristes qui découvrent, eux, une Rosa déjà adulte et bien composée. Mustapha me connaît actrice, colérique, en bad. On s'est vu très bourré. Mustapha m'a vu en couple, longtemps, puis célib, encore plus longtemps. C'est une longue histoire d'amitié qui nous lie. Et tu me manquais, Mousse, et j'avais envie de partager notre lien avec mes auditeurs, auditrices, te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas encore et te remercier. Je te remercie d'être là aujourd'hui. Mon ami, je t'aime.
Oh, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Faut juste que je rectifie un petit truc.
Vas-y.
Mais pas parce que je l'ai pas. Nicolas Lyotard, j'ai pas pu faire le projet. J'ai 3 semaines avant... Je l'ai appelé, 3 semaines avant le début des répètes, je l'ai appelé pour lui dire que je pouvais plus, alors que je m'étais engagé, hein, moralement en tout cas, parce que y avait Abonne-toi, la série Abonne-toi qu'on faisait avec les Yes, et voilà, tout est arrivé en même temps.
Mais c'est encore sur ton CV.
Ah ben, il faudrait que je l'enlève. Ah
ouais. Ouais, ouais.
D'accord.
Je suis allée revérifier.
D'accord.
Et ouais, c'est sur ton CV, c'était le Tchekhov.
Oui, c'est ça.
Ouais, il y a l'année, Tchekhov, Nicolas Yada.
Ok,
ouais, ouais.
Bah, je ne l'ai pas fait, je suis un imposteur, il faut que je l'enlève. Il faut que je l'enlève.
Mais sinon, le reste est vrai.
Le reste est vrai, ouais.
Ouais.
Carrément. Ouais.
Enfin, quelle époque, soirée plaisante quand même.
Bah.
Est-ce que tu te souviens, c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés?
Bah, c'était Johan qui m'avait présenté à toi. Je me souviens très bien, en fait.
Ah ouais?
C'était un nouvel an.
Ok.
Un nouvel an. Et dans ce nouvel an, il y avait Pierre Ninet. C'était vraiment il y a très très longtemps.
Hein. Oh putain! Attends, je me souviens de ce nouvel an. Avec Pierre Ninet, mais c'était chez... c'est pas chez Pierre Ninet.
Je pense que c'était chez Pierre Ninet.
Chez Pierre Ninet, il y avait pas François Civil aussi.
C'est possible.
Et il y avait justement un autre ami à moi d'enfance qui est aussi un pote de Pierre.
D'accord.
D'accord. Et Pierre était au Cons avec à l'époque avec Johan et toi.
C'est ça. Et je me demande s'il venait pas de quitter le Cons parce qu'il avait la Comédie Française.
C'est ça, je me souviens.
Ouf, ouais. Voilà.
Ouais, ouais. Et moi, je connaissais Pierre parce qu'on était ensemble dans les cours ados du cours Florent en seconde. On se connaissait depuis la seconde.
D'accord.
Il avait un super pote à Montaigne qui était en seconde avec moi.
D'accord.
Ouais. Mais d'accord, et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés à cette fête-là.
Voilà.
Et je sortais avec Johan et t'étais au conseil avec Johan. Donc, c'était même avant qu'on commence les soirées plaisantes
Ouais, bien sûr. C'était bien avant. C'était
okay. Bien avant.
Ouais, ouais. Soirée plaisante, on l'a fait 2-3 ans plus tard, parce qu'on était au
mais
cours,
oui, t'as raison. Année, en fait, c'est vrai, on l'a fait en sortant des écoles.
Voilà, c'est ça.
On était déjà amis avant.
Voilà.
Ouais, mais on s'est vraiment encore mieux rencontrés au moment des soirées plaisantes. Est-ce qu'on faisait on sortait beaucoup Enfin, j'étais surtout la meuf de Yohan, mais j'étais pas encore genre ta pote, quoi.
Ouais, on ouais. Va dire ça. C'est surtout après, ouais. C'était ouais. Pendant les soirées plaisantes.
C'est surtout pendant les soirées plaisantes. Tu te souviens quand on répétait à Aubervilliers?
Oui, je me souviens très bien. Je me souviens du chemin long, 20 minutes.
Dans l'hiver, dans le froid, putain.
Ouais, je me souviens très bien, ouais.
Mais les gens s'étaient déplacés, hein.
Non, c'était cool.
C'était tellement cool.
C'était très cool, les gens s'étaient déplacés, les gens riaient, on passait
pour
de bons...
Pour expliquer aux auditeurs, en fait, les soirées plaisantes, c'était quoi? En gros, c'était une troupe d'impro.
Mm-hmm.
Et d'anciens de 3 écoles, du conservatoire, de classe libre et du studio d'Anière.
C'est ça.
Et donc des potes, c'était créé par Guarani et Johan.
Voilà.
Et en fait, les spectacles ont proposé chacun des petits sketchs.
C'est ça.
C'était ça au début.
Et je me demande s'il n'y avait pas un thème, je ne suis même pas sûre, je ne crois
au
pas.
Au tout début, le premier, je crois qu'il n'y avait pas encore... Je me souviens non. De Gabriel, tu te souviens? Gabriel, oui. L'astronaute Peter.
Oui, je m'en souviens très bien.
En vrai,
comment ne pas... comment oublier
mais
un
tu
fait
sais que en fait c'était du fucking théâtre public parce que tu vois quand tu prends un truc soi-disant divertissant mais que tu le fais durer 25 minutes, c'est là où ça devient genre en vrai c'était
oui.
C'était expérimental.
Il y avait de l'expérimentation.
Il y avait de l'expérimentation oui. Parce que en fait donc Gabriel, il y avait du test, il y avait beaucoup de tests. Gabriel c'était donc un pote à nous qui faisait le démarrage avec une voix off de donc d'un astronaute.
C'est ça.
Qui part dans l'espace.
C'est ça.
Et qui commence en fait à péter dans sa combi. Et, c'est juste ça.
C'est ça. Après, l'humour, je crois, était...
De la longueur de la répétition.
De la longueur de la répétition, ouais. Mais de la décompression entre cet astronaute vaillant qui allait conquérir peut-être le monde, en tout cas conquérir l'espace.
C'est ça.
Et ça se finissait par un paix. C'est peut-être la blague la plus vieille du monde, hein, cette
oui,
décompression.
Oui, mais c'était incroyable parce qu'en fait, déjà, il avait enregistré dans le bruit du paix, c'était un bruit audio d'une voix off.
Voilà.
Et lui, il le jouait par-dessus.
Ouais.
Mais ça durait des heures, quoi.
Ça durait longtemps.
Ça durait très longtemps. Et en fait, le public riait au début, puis riait plus parce qu'il avait compris la blague, puis se remettait à rire nerveusement.
Parce que c'était un
parce
long
que c'était
paix.
Si long, ouais. Si long. C'était très, 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 très drôle. Oh. Moi, je faisais la meuf... tu te souviens mon rôle? Je faisais la babos.
Mm-hmm. La babos, je me souviens, oui. Carrément. Mais tu revenais plusieurs fois, non? Ou non, aucune fois, je me souviens plus.
Je sais pas. Je crois que c'était... Bah, en tout cas, c'était mon rôle phare, quoi.
Oui.
C'était une punk à chien qui vend des coquillages sur la plage et qui a l'air au départ hyper cool. Mais en fait, au fur et à mesure qu'elle parle, on se rend compte que... elle vient d'un milieu plutôt bourgeois et qu'en fait, elle est totalement raciste ou un truc
oui,
comme
oui,
ça.
Oui, c'était ça, oui.
C'était ça la blague.
Oui.
Mais j'y prenais beaucoup de plaisir. Bah, en fait, on rigolait beaucoup. Enfin, je sais pas si c'était très drôle ou si c'était pour vous faire rire, vous, quoi.
Je pense
que Guarani nous entraînait à faire des choses qui le faisaient rire, lui.
Oui, après, c'est normal. Il dirigeait tout ça. Du coup, si ça le fait rire, il dit que c'est bon. Mais on saura jamais si c'est drôle avant de le présenter devant un public.
Ouais.
Et des fois, il y a eu des échecs.
Et
c'est la vie.
Ouais.
Et c'est comme ça. Et enfin... Pour faire des choses drôles, je pense qu'il faut se foirer devant
des gens.
C'est
clair. Non, mais en vrai, la meuf du festival, ça fonctionnait plutôt bien. Le beat que je me suis pris, c'était quand on était au bout. C'est quand il me faisait faire l'actrice qui devient une poule.
Ah oui.
Ça, personne n'avait ri.
Ah, je me souviens de ce sketch.
Tu te souviens ?
Écoute, je ne l'ai pas trouvé complètement raté. Par contre, c'était un risque parce que c'est que tu fais la poule pendant longtemps.
Le
paix, c'est moins risqué parce que c'est un paix. On sait que ça marche depuis un million d'années.
Ouais.
On rigole du paix.
Ouais.
La poule. Faut encore trouver le rythme.
Et en même temps, je pense que ça avait créé un tel climat d'étrangeté qu'ensuite le spectacle, les gens étaient dead. Mais parce qu'ensuite, le moindre truc un peu plus concret était un réel soulagement pour
Peut-être
le public.
Peut-être que ça servait à ça finalement.
Ouais, je pense que ça mettait un cadre au spectacle. Tu vois. Parce que je me souviens que ça commençait par ça. L'étonnement du public choqué. Et ensuite, on arrivait et là, on faisait notre...
Mais alors, c'était quoi le début ? Pourquoi t'en arrivais à faire la poule ? Il y avait un truc quand même au début.
L'idée, c'était d'une actrice qui est tellement actrice que, en fait, à force de faire des têtes et des machins et des jeux, elle en devient un animal, quoi.
Ah oui, d'accord.
Et puis, en fait, un animal complètement grotesque.
D'accord.
Ouais, il y avait un peu de sens.
Il y avait du sens. Non, mais il y avait vachement de sens, en fait.
Oui, bien sûr.
Heureusement. Et si c'était pas drôle, c'était au moins poétique.
À cette époque, Guarani, Johan et toi, vous faisiez les Metro Showman.
Ah oui.
Oh mon Dieu. Je pense que ça va être l'épisode le plus nostalgique de tout mon podcast, mais pareil, j'explique ce que c'était. Moi, j'étais tellement admirative. Tu te souviens, je vous suivais.
Je vous regardais.
Et je crois que peut-être que c'est la chose la plus risquée que j'ai vue de ma vie, même encore plus que le stand-up. Vous étiez des grands malades.
Bah, c'est un truc qu'on peut plus refaire, hein, en vrai.
Ah ouais, maintenant. Déjà, c'était chaud quand même. Hein.
Ouais, mais il n'y avait pas eu encore les attentats du Bataclan.
Ah ouais, il n'y avait pas eu encore le Bataclan.
Non, on n'était pas en Vigipirate. On l'aurait pas fait après. Hein.
C'était après Charlie, pourtant, quand même, non ?
Oui, c'était après Charlie.
Ouais. En fait, vous faisiez des sketchs dans le métro, sur la rame et à l'intérieur des wagons.
Je ne suis même pas sûr que c'était après Charlie.
Ah, c'était peut-être avant Charlie, ouais.
Il me semble. Ouais, c'était il y a longtemps. En gros, on faisait des sketchs un peu en impro. On avait des thèmes dans la rame. Par exemple, on était trois. L'un de nous disait « Bonjour, je m'appelle... Bonjour, je m'appelle le commandant Shepard. Je sais, c'est très étonnant de dire ça devant tout le monde, mais voilà, je viens d'un monde parallèle et il y a un monstre du nom de Rectoteur qui est dans la rame en ce moment même et je suis ici pour remettre sur pied le continuum espace-temps, une connerie. » Et les gens se disent « Bon, bah, ce mec est fou. » Et là, notre pote qui était au bout de la rame fait « Bonjour, je suis Rectoteur et tu ne mourras pas, commandant Shepard. » Et ensuite, le troisième devait servir à faire le Deus Ex Machina pour finir le sketch. C'était à moitié de l'impro et en même temps, on avait nos rendez-vous.
Ouais.
C'est juste les personnages qui changeaient, mais c'était à peu près la même chose tout le temps.
Et vous faisiez payer à la fin ? Il y avait un chapeau ou pas ?
Non, mais on faisait quand même passer un petit chapeau. Attends, mais pourquoi ? On avait une raison à ça. On finançait quelque chose.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on finançait pas un truc pour les soirées plaisantes.
Certainement, si. L'idée, c'était de réunir des sous pour les soirées plaisantes.
Voilà, après, on s'en mettait aussi un peu. voilà, parce qu'on travaillait pas et,
ouais.
et c'était une source de revenus assez agréable parce que, en étant tout à fait honnête, parfois en trois rames.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On se faisait 45 euros chacun.
Ah ouais?
Ça veut dire
quand même.
en 15 minutes.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est quand même pas dégueu.
Ah ouais, c'est pas dégueu. Non, non, c'est vachement bien.
Et on s'est dit, bon, bah, c'est cool, on va pouvoir.
Ouais, je crois que c'est jamais arrivé dans les soirées plaisantes.
Non, mais il y avait un petit projet qu'on a abandonné.
Oui, c'était. Mais en effet, par contre, c'était un succès, c'était extraordinaire. Et ce dont je me souviens, c'est quand c'était dans la rame de métro, vous serviez des barres de fer pour créer des combats. Et c'était, mais enfin, les gens étaient pétés de rire, quoi. C'était. Est-ce qu'il y a déjà eu une réaction négative?
Oui,
ah
plein.
Ouais, ah ouais, c'est
il y
vrai.
En a eu plein.
Ah ouais.
Il y a eu des gens qui voulaient nous taper, des gens qui nous insultaient. Il y a un mec, je me souviens, ça c'est peut-être le truc le plus flippant que j'ai vécu. On était sur, je ne sais plus où, on était à Concorde avec Guarani, on attendait juste Johan, qui était un peu en retard. Et là, il y a un espèce de grand mec un peu slave, torse nu, un peu grand et large, qui m'en voulait. Et comme il parlait pas français, je savais pas de quoi il m'en voulait.
Oh,
au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il est juste un peu bourré et tout. Et on va dans la rame, et là, il nous suit dans la rame. Et j'avais tellement peur qu'il me mette un coup de poing, mais les coups de poing surprenants, tu sais.
Ouais.
Celui qui fait paf, d'un coup, tu l'as pas vu venir. J'avais trop peur de ça, je flippais ma race de ça. Et mais voilà, il y a eu ça, il y a eu aussi des racailles de 16 ans, des filles qui.
Ah ouais, ça, Johan, ça l'avait traumatisé,
oui,
ça, je crois.
Oui, c'était un peu, c'était un peu relou parce qu'elle lui disait ferme ta gueule très fort. Et
putain. Voilà. Attends, les racailles meufs, elles font encore plus peur que les mecs.
Ah bon, tu trouves?
Non, peut-être pas, mais elles peuvent faire super peur. Mais moi, j'étais jamais là quand un de ces trucs est arrivé. Moi, une fois, par contre, j'avais demandé si je pouvais participer ou vous m'aviez proposé, je devais avoir un personnage, et je n'avais pas pu. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment.
Je devais
être assise, puis me lever et dire que et j'étais tétanisée.
Je comprends, ça
j'étais
fait très peur.
Tétanisée.
Ça fait très peur le métro.
Très très peur.
Bah, c'est des gens qui n'ont pas envie que tu joues pour eux.
Ah ouais. Non, mais c'est le truc le plus. Ouais, c'était fou. Et en même temps, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est un peu ça, en fait, finalement, le cœur de notre métier. Il y a un truc où, tu vois, ce frisson, finalement, bah, quand même, je l'ai vachement retrouvé avec le stand-up, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
C'est ça.
Où, tu vois, il y a un truc quand même de jungle.
Ouais, bien sûr.
Hyper flippant dans certains lieux.
Bien sûr. Bah, c'est l'humour, quoi. Tu dois conquérir le public.
Hier soir, j'ai fait un truc quand même difficile, je te raconte vite fait.
Ouais.
J'ai fait, mais c'était incroyable, mes 4 comiques dans le ventre, Seb Melia. Tu vois ou pas? C'est un podcast qu'il met sur YouTube. Et c'est un genre, une espèce de talk show où il invite 3 humoristes.
D'accord.
Et on discute tous. Et genre, j'étais trop contente qu'il me propose parce que c'est un truc qui fait des millions de vues et que Douli et Pierre Thévenoud, après l'avoir fait, ils ont vraiment rempli leur salle avec. Que Urbain ou Adrien Arnoux sont reconnus sur les plateaux parce qu'ils ont fait 4 comiques. Donc c'est un truc qui est devenu culte.
Wow.
Donc c'est un phénomène. Et d'ailleurs, il l'a mis sur Biréduc. À peine il l'a annoncé sans line-up, c'était numéro 1 top Teresa. En 2 jours, c'était complet. 500 places.
Ah oui.
Donc je me disais, bah, trop bien, merci de m'inviter, mec, et tout. Donc enfin, c'est un ami, je l'adore, mais j'étais en mode, waouh. Et il m'annonce le line-up et je me dis, ah, s'il y a des copains, ça va être facile. Il me dit Benjamin Tranier et Fabrice Eboué. Donc je les admire trop, mais je ne les connais pas du tout. Et on a commencé hier. Et les gars, c'est des machines.
Ah oui.
Bah, en fait, c'est des mecs qui parlent et qui ont le sens de la vanne. Mmh. Donc en fait, moi, tu vois, mon podcast, de temps en temps, on se marre. Mais c'est parce qu'on a. Eux, c'est des gars qui Seb faisait. Tu sais, ils disent de se présenter. Et en fait, ils arrivent un peu à l'américaine à faire semblant de parler en faisant du stand-up et en balançant des punchs, certains plus ou moins écrites, tu vois.
Mmh.
Et moi, je m'étais mise en mode. Genre, ça va être une discussion. Et au début, j'ai flippé, quoi. Parce que le public, il était au taquet et t'avais 500 personnes qui applaudissaient sur leur punch.
Ah ouais?
Ouais.
Génial.
Et donc moi j'étais en mode et toi Rosa, présente-toi. Eh ben enfin tu vois. Et donc résultat, au fur et à mesure je me suis détendue et au fur et à mesure j'ai réussi un peu j'ai jamais réussi à me mettre tout à fait au niveau de ces mecs là genre j'ai réussi à créer une espèce d'humeur comique autour de moi, ce qui faisait que les gens se marraient. Mais ouais, c'était un exercice quand même particulier, quoi.
Ouais, j'imagine. Ouais.
T'imagines? En fait, je ne l'avais jamais vécu vraiment tout à fait.
Ouais.
Je l'avais vécu juste une fois en plateau, ce truc très humour de vanne,
ouais.
Où j'étais allée chez Ruquier et je pensais que c'était juste un interview. Et elle m'a fait « Alors, il paraît que vous êtes marrante, pourtant vous n'avez pas l'air marrante. Pourquoi vous êtes marrante? Vous n'êtes pas marrante, non ?» Et là, je me disais « Ah, ok. » Et sur le moment, je n'ai pas eu de répartie. J'ai juste répondu « Bah alors, je ne suis pas marrante.
» Tu l'as pris mal.
Ouais, et il y a eu une gêne.
C'est très drôle.
J'aurais dû dire, bah non, je suis pas marrante, sinon vous m'auriez pas virée, quoi. Parce que c'est vrai qu'au départ, je devais faire des chroniques dans On est en direct, j'en ai fait deux, puis bon, ils m'ont pas rappelé.
Ah oui.
Mais ça, c'était à la toute fin de l'émission, j'aurais dû dire, bah non, sinon tu m'aurais gardée. Mais j'osais pas, tu sais, j'ai eu peur de me griller.
T'aurais dû dire ça, c'est ouais, très très drôle.
Mais oui, j'aurais dû dire ça, mais ça m'est pas venu tout de suite. À l'esprit, moi, je suis pas une grande vanneuse, tu vois, toutes les blagues que je fais, c'est de l'autodérision. Ça me vient un peu en plateau maintenant à force. Mais moi-même, parfois, quand tu sais, je vanne le public, j'ai toujours un peu l'impression de me violer intellectuellement, quoi. Tu vois,
ouais.
Il y a un truc un peu que j'ai appris à faire, mais qui est... Ouais. Toi, on est où de ton rapport au stand-up ? Je me souviens quand j'ai commencé, t'aimais pas ça du tout.
Bah, j'aime toujours pas trop ça. Ouais. C'est pas... J'aime trop en regarder et en regarder parce que je trouve ça hyper formateur. C'est pour ça que je me suis dit, j'allais te dire pour Fabrice Eboué et Benjamin Tranier, je trouve ça trop bien aussi de voir des acteurs travailler parce que je trouve ça, je sais pas, je trouve ça hyper formateur pour moi. Ça fait partie des top 3 des plus grandes leçons, les acteurs, comment ils travaillent et les acteurs qui font de l'humour. Et du coup, mon rapport, il reste. Comment dire, toujours universitaire. Je les regarde travailler, mais j'ai pas envie de faire de stand-up. Après, peut-être que le stand-up, ça va me dire un moment, je me dirai, ah, tiens, c'est le moment de faire le bilan. Et je le ferai en stand-up, mais.
Ouais, peut-être à 50 ans, tu feras un stand-up.
Et encore, hein, je sais pas, ça... vraiment là, j'ai pas envie de le faire. Après, il paraîtrait que c'est un passage obligé en France.
Ah ouais ?
Non, mais je sais pas, mais si on voit les acteurs qui fonctionnent, ils ont tous plus ou moins fait du stand-up,
c'est
en tout cas.
Hein.
Il y en a plein qui
de comédie, en tout cas.
Ouais, de comédie.
Ouais. Marion Cotillard, elle a jamais fait
non,
ça.
Non, bien sûr. Non, mais tout le monde, pas tout le monde, mais Laurent Lafitte en a fait. Malik Bentala, tous ces gens. Bon, j'ai pris deux gens complètement opposés, exprès.
Ouais. Ouais. En même temps, je comprends, c'est hyper loin de toi parce que t'as toujours mis beaucoup de filtres, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit le fait de faire un personnage et t'as toujours été cherché hyper loin. Quand t'avais mis en scène un truc qui se passait dans l'espace. Là, quand tu t'exprimes sur Instagram, il faut qu'il y ait le filtre de l'animation. C'est-à-dire que non seulement c'est un personnage, donc on te voit pas, mais en plus il y a du dessin. Enfin, j'ai l'impression que t'as toujours besoin de tirer le truc le plus loin de toi possible, quoi.
Ouais, carrément. Et puis le dessin animé, c'est un peu un rêve. Et j'aurais pas pu le faire s'il y avait pas internet. Et du coup, je m'en donne à cœur joie.
Mais tu vois, t'es fan de Yacine, il est humoriste.
Oui.
Bellouf.
Oui, ouais. Mais j'adore les humoristes.
Ouais.
Mais en fait, c'est même hyper important. Mais en pratiquer, pratiquer l'humour, oui. Il y a plein de manières de le faire, comme les dessins animés, comme l'écriture, comme même écrire des histoires ou mettre en scène des pièces. Mais pratiquer moi tout seul du stand-up, pratiquer l'art.
Mais je pense pas que t'en aies besoin parce qu'en plus, regarde, il y a une autre voie, c'est celle de, comme toi, c'est celle de faire du théâtre public et d'être prise dans des projets auteurs ou grand public. Regarde Elsa Gedge qui a à peu près ce même parcours après le Conce de faire du théâtre subventionné et qui maintenant se retrouve dans une série Netflix. C'est un peu le parcours genre Thomas Simeka ou tu vois ces mecs-là qui passent pas du tout. En fait, disons que le stand-up, c'est peut-être un tremplin vers la comédie populaire, mais pour le cinéma d'auteur, pas forcément. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Où il faut faire ses preuves à outrance, comme Laurent Lafitte, ou je sais pas quoi. Après, Laurent Lafitte, il a la Comédie Française, donc c'est peut-être un mauvais exemple. Mais, oui, non, mais t'as sûrement raison.
Et c'est quoi tes projets ? Moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu devais jouer Hamlet au Festival d'Avignon, et ça a été maintenu. C'était l'été dernier.
C'était là, en juillet.
Ok, voilà. Comment ça s'est passé ?
Écoute, c'était très intense.
Ouais.
C'est Hamlet.
Ouais.
Je te dis la vérité, je convoite beaucoup de rôles, mais j'ai...
Jamais convoité Hamlet ?
Bah non, j'ai un peu honte de dire ça, hein, parce que je l'ai eu, on me l'a proposé, je l'ai joué, donc voilà. Mais une fois que je l'ai fait, j'étais très content, je l'ai découvert. J'étais plutôt très heureux de le jouer. Maintenant, c'est intense, c'est très intense. C'est un mec qui... C'est un mec qui, pardon de le résumer de cette manière, mais c'est quand même un mec qui est fou et qui sème la terreur, et, pas la terreur, mais sème le malheur autour de lui. Et voilà, et il est tout le temps sur le plateau et c'est pour Olivier Py. Et Olivier Py, la demi-mesure n'existe pas, il faut vraiment jouer, se déchirer l'âme. Donc c'était deux mois et demi très très intense, mais voilà, c'est
incroyable.
Terminé. Et enfin, c'est terminé. Il reste une petite tournée, mais je suis content de que ce soit. Je suis très content de l'avoir fait. Ouais. J'en suis très fier, mais je suis aussi content que ce soit derrière moi parce que c'est extrêmement intense et quand tu fais ça, tu peux pas faire autre chose. Et je t'avoue, je suis peut-être un gamin, mais je t'avoue, les dessins animés m'ont manqué pendant 2 mois et demi. Je me suis dit, putain, j'ai envie de faire des dessins animés. Et je pouvais pas parce que je devais avoir une hygiène de vie irréprochable. Parce que,
déjà, la performance physique, quoi.
La performance physique, tout le texte
tu
à
devais
lire.
Crier. Et puis, le Palais des Papes, t'as quand même joué... Tu te rends compte quand même, t'as réalisé le fantasme de... Il y a combien de personnes, de comédiens en France qui font les écoles, qui rêvent un jour de jouer au Palais des Papes, dans le Inn d'Avignon, qui y parviennent, tu vois. Non, nous, on passe tous ce moment à 30 ans où tu enterres ce rêve. Et toi, tu l'as réalisé. Et en plus, alors, Hamlet, mais oui, mais c'est même le lieu quand même... Mais tu l'avais déjà fait, j'étais venue te voir dans le Inn, c'était aussi
le
un...
Roi Lear.
C'était dans le Roi Lear, ouais. Mais quelle beauté quand même ce lieu. T'es là et c'est la nuit, t'as les étoiles. Enfin, t'as l'impression d'être... Enfin, je sais pas, c'est sublimissime, quoi. C'est sacré, en fait. Il y a une espèce de...
Ouais. Alors, le Palais des Papes, c'était pour le Roi Lear. Après, Hamlet, je l'ai pas fait au Palais des Papes. Hein. Je l'ai fait au Jardin Secano.
D'accord.
Voilà. Je me suis pas mis bien à ce point, quand même. Il y a des limites.
C'est quoi le Jardin Secano ? J'y suis jamais allée. C'est pas Place des Carmes, non ? C'est pas un truc comme ça ?
Non, et j'ai oublié la place. Ouais. Mais c'est un jardin dans lequel il y a des lectures et c'est là.
D'accord. Et c'est un petit couvent, non ? Non, rien à voir ?
Non. Non, je crois pas. Non, non. C'est juste derrière le Palais des Papes.
Ok, c'est combien de places ?
Il me semble. Et c'est, je sais pas, 500 places. Après, c'est dans un jardin, ils rajoutent autant qu'ils veulent. Mais c'était 500, quoi.
Ouais, quand même. C'est quoi la plus grosse salle que t'es faite ?
Bah, c'était le palais, je crois. C'était 2000, 3000, je sais plus c'est combien.
C'est
le palais.
Énorme.
Mais c'est très étrange parce que du coup, j'avais très très peur avant d'y aller. Mais une fois que t'y es, il y a tellement de gens que t'as l'impression que c'est une espèce de masse informe. Et c'est bizarre de dire ça, mais c'était un peu impersonnel, je t'avoue. Alors que quand tu joues dans le métro ou... devant 30 personnes, comme tu les vois, t'as plus peur.
Ouais.
C'est bizarre, hein.
Ouais, c'est clair. D'accord, et donc ensuite t'étais épuisé, puis t'as fait quoi ? C'était en août, ensuite t'es parti en vacances ?
Non, j'ai pas pris de vacances encore. J'étais dans un autre festival qui s'appelle le Festival Pampa, dans lequel j'ai monté un spectacle.
Ok, trop bien.
Voilà.
C'était quoi ?
Avec une fille qui s'appelle Marion Noon, qui s'appelle la dame de chez Maxime, de Fédo.
Ah, ouais, bien sûr, trop bien. Connais. Ouais, j'adore.
Voilà.
Et c'était cool, vous êtes éclaté ?
C'était très sympa, ouais. Vraiment bien éclaté, très content du résultat en plus. C'est très cool. Maintenant, je crois que j'ai fait assez de théâtre pour l'été.
Ouais.
Et voilà, maintenant je voudrais reprendre les dessins animés, puis la fiction, la prod, tout ça.
Ouais.
J'aimerais beaucoup
reprendre tout ça. C'est un où, Brood ? J'ai vu une vidéo, un tweet passer comme quoi c'était la dernière saison et que vous alliez ralentir sur la production.
Alors, non, je crois pas.
Ah ouais ?
Parce qu'en fait, il y avait un twist à la fin de la vidéo.
Ah.
Finalement, non.
Ok.
Il va faire une troisième saison. Et voilà, dans Brood, je suis juste acteur. Il va inviter ses amis un peu plus régulièrement, a-t-il dit. Je vais apparaître, mais en tant qu'acteur, je n'écris pas avec Bertrand les broutes, mais je suis très content de les faire avec lui.
Bien sûr. Et Yazouzem, c'est terminé ?
Alors, normalement, non, car nous avons encore un peu d'argent en commun qu'on doit dépenser dans des sketchs.
Okay.
Et du coup, on est en train de voir en ce moment, on est en train de travailler pour voir si ces sketchs ne vont pas peut-être devenir des pilotes de séries pour développer un peu plus.
Ouais, c'est ouf que vous ayez fait durer ça jusqu'à aujourd'hui parce que c'est tellement compliqué les collectifs. C'est ce qui est dommage quand tu penses aux soirées plaisantes. Bien sûr, à un moment, je retourne dans notre quart d'heure nostalgie, bien sûr, à un moment finalement, on s'est séparés. Mmh. Mais t'imagines, c'est logique, on était combien ? 10 ? 13 ?
On était
combien ?
Beaucoup.
12 ? 11 ?
On était beaucoup, on était 13, 14 en tout cas. Ça.
Ouais, c'était. Et forcément, il y avait des pétages de plomb, quoi. Parce que c'est très difficile à faire vivre dans la longueur. Un collectif avec des gens tous, quand même beaucoup de gens fous, beaucoup de gens avec des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, assez aigus, et je m'inclus dedans. Mais au final, il n'y a pas eu les engueulades notoires. Nous deux, on en a eu une.
On en a eu une, oui.
Ouais, une. C'était de ma faute. Hein.
T'inquiète.
C'était... je la raconte vite fait, c'est notre seule engueulade.
Vas-y, si tu veux.
On répétait à Asnières... à la ZAC, c'est ça ?
Je crois, je sais plus, il me semble.
Pareil, pourquoi toujours à 25 minutes du métro, quoi ?
C'est
dans des endroits,
je sais pas,
mais...
C'est une malédiction.
Ah ouais, hyper loin. Et on faisait des impros et on rigolait bien. Et puis ensuite, on répétait les profs, je crois.
C'est ça, oui.
On répétait les profs et je voulais... J'avais tenté une blague raciste, c'était ça l'idée. C'était de...
On était jeunes,
mais je pense que je faisais une blague sur les musulmans, les attentats à toi directement. Et je pense que c'était incroyablement lourd comme blague, mais que je voulais absolument que tu ris. Et donc je te lâchais pas, et je la faisais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais plus.
Plus, j'ai dû te dire d'arrêter de manière désagréable,
ouais,
et voilà, après c'est parti.
Ouais. Tu m'as dit arrête Rosa, et je crois qu'en fait je t'avais jamais vu sec, parce qu'en fait t'es un mec super gentil, super doux, et que peut-être que t'évites le conflit au maximum, et que personne vraiment ne s'engueule frontalement avec toi, si...
Non, je sais pas, je sais pas trop.
Peut-être après, ça je t'ai dépend. Vu t'engueuler frontalement avec des gens, Je crois qu'après, finalement, avec Johan, de temps en temps, vous vous êtes pris le chou. Mais à cette époque, on était plus jeunes, t'étais quand même, t'étais super doux, quoi. Par rapport à Guarani, tu vois, qui lui pouvait avoir des colères plus fortes, et donc que tout d'un coup, tu sois sec. Parce que je m'étais déjà engueulée avec Guarani. J'avais l'habitude de m'engueuler avec Guarani. Je disais, je suis pas ta mère, ou je sais pas. J'étais. Je m'étais cassée. Non, j'avais fait aussi une crise de parano envers Guarani. Je sais plus pourquoi, parce que je le trouvais dictatorial. Et résultat, je m'étais levée, j'étais en pleurs, puis j'étais partie. Mais en même temps, rétrospectivement, vous aviez tous rigolé après, c'est ça, ce que vous m'aviez raconté?
Je sais même plus.
Si, ouais.
Ah bon?
Vous m'avez dit, vous avez tous trouvé ça drôle, quoi, parce que c'était too much.
Oh, je t'avoue, moi j'étais un peu mal, hein. je riais pas, moi.
Ah ouais,
non, je pense, c'est pas mon genre de rire après une dispute.
C'est vrai. Et comment on s'est réconciliés? On s'est appelés. Et c'était la seule, t'imagines, en 15 ans d'amitié, ça va. Il n'y en a pas eu d'autres?
Non, je crois pas.
J'ai pas de souvenir.
Non.
Tu m'en as voulu la dernière fois quand je t'ai fait une remarque quand t'as cassé des verres.
Mais non, mais c'est pas à toi que j'en voulais du tout, c'est à moi. J'étais...
Chérie. Non, mais je t'aime trop. Et après, par contre, je vais me souvenir d'une autre grosse dispute avec Guarani en sortant des capsules. Je sais pas si t'étais là. On s'était mis à hurler l'un sur l'autre, mais c'était beau en même temps.
C'était beau.
Non, mais parce qu'il y avait un truc de... Tu sais, je sais pas comment dire, c'est aussi hyper pur l'amitié.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parce que en fait, c'est vraiment deux amis qui s'engueulent. Et il y a aucun truc de aujourd'hui des rapports de thunes ou de pouvoir ou de machin, ce qui fait que tu calcules ton comportement. Moi aujourd'hui, il y a plein de gens, s'ils font quelque chose ou quoi, je m'engueulerai jamais avec eux, je leur dirai jamais ce que je pense parce que c'est pas des amis, c'est des collègues ou des parce qu'il y a trop d'enjeux. Et là, c'était juste le fait de, tu vois, c'est aussi la liberté de l'amitié, en fait, de pouvoir aussi se hurler dessus, même si c'est désagréable. Mais en fait, ça montre que tu n'as pas peur de la dispute. Et on hurlait et je me souviens, je crie en pleurant en disant « C'est hyper important pour moi, mes amis. C'est hyper important. » Il y avait Louise et Olivier qui pleuraient aussi en nous regardant. Ah ouais, c'était allé. Ah, c'était intense, c'était fort. Mais bon, c'est aussi pour ça que moi j'ai fait du stand-up, tu vois.
Pourquoi ?
Pour être seule.
Ah oui, d'accord. D'accord.
C'est-à-dire que quand tu vis ces collectifs aussi, c'est à la fois hyper enrichissant et à un moment, tu es là, j'ai besoin d'un système plus léger, où j'attends pas les gens qui sont en retard en répète, où j'attends pas, tu vois, où ça ne dépend que de moi, tu vois. Est-ce que toi, maintenant que ça fait des années que tu travailles en collectif, tu ressens aussi ce besoin-là ou pas ?
Ouais, grave, ouais, vachement.
Logique.
Mais beaucoup même. En fait, d'être indépendant, de pas attendre les gens, de pouvoir faire. Bah, c'est ce que j'ai fait avec les dessins animés. Hein. Mm. Me dire, vas-y, je le sors si j'ai envie de le sortir. Et
bah ouais.
Peu importe.
C'est clair.
Ouais, c'est. Bah je ouais. ressens ça. C'est peut-être l'âge aussi, qui sait.
C'est l'âge. À mon avis, c'est les deux. Et le fait que quand tu es tout le temps à te réunir, à écouter ce que chacun pense et à devoir faire en fonction des sensibilités, des avis des autres, c'est lourd en fait, c'est une charge quoi. Alors que quand tu es tout seul, bon bah tu fais des trucs et puis voilà, tu t'en prends qu'à toi, enfin tu vois, je veux dire voilà, puis en plus parfois avec des égos, c'est vrai que la troupe les soirées, il y avait tout le monde, on avait tous nos égos d'acteurs ou tu vois forcément justement, parfois, le problème, c'était que sur des blagues, il y en avait qui marchaient, d'autres qui bidaient. Il y avait un petit peu... Guarani gérait bien ça. On n'était pas trop dans la course à la vanne sur
ouais,
scène.
Ouais.
Mais moi, un peu quand même...
Ah bon?
Ah bah, j'avais tendance à cabotiner, mais Guarani me recadrait. Je ne te souviens pas... Bah, c'était au bout. Ils nous donnaient quand même des codes et des rendez-vous, des trucs d'écoute. Mmh. Et puis on était chacun dans nos personnages de prof. Et je m'étais mis à vieillir. J'avais décidé que ma prof, elle faisait 80, elle avait 80 ans.
80
et résultat,
ans.
J'avais tout joué comme ça.
Ah bon? Yes. Je devais pas être là parce que je m'en souviens pas, mais j'imagine.
Et je me souviens très bien, tu regardes tout le monde en mode qui se retenait de rire et qui était en mode what? Et de Guarani super vénère. Genre, qu'est-ce que tu fais, meuf? Sauf que moi, j'avais commencé.
C'est trop tard. Hein,
c'est trop tard. Et j'allais pas. Donc j'avais fait tout le spectacle comme ça.
Yes.
Et à la fin, Guarani, ah ouais, il n'était pas content. Mais il avait raison.
Mm.
Il a dit, Rosa, tu ne peux pas prendre la couverture comme ça et partir toute seule avec. Et nous les tesser tous à poil. Sans... Et donc, ouais, c'était des... Et il y a une autre fois, au Ciné 13, où il y avait une vanne qui appartenait à Julien, je crois, qui disait, et hop, je lui avais prise et je l'avais sortie.
Allez, c'est bon ça.
Parce que je n'étais pas sûre, je ne sais pas, je n'étais pas sûre qu'il la sorte ou quoi. Et je me souviens très bien de sa gueule, quoi. Et ça, il m'en a voulu, mais ouais. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reste amis, Mustapha, toute notre vie.
On va rester amis, t'inquiète.
Je me dis, il faut passer les... Tu vois, il faut pas... Il y a plus aucune raison pour qu'on se fâche.
Non.
Et puis peut-être qu'on retravaillera ensemble.
Qui sait ?
Là, donc, tes envies, c'est plus... Tu veux plus mettre en scène du théâtre ?
Bah si j'ai l'occasion. On va essayer de vendre La Dame de chez Maxime, mais
oh,
voilà,
trop bien.
C'est un travail de longue haleine, c'est pas le travail le plus glorieux. Avec Instagram, je gagne plus de gloire, donc je me dis, bon, bah, peut-être je vais continuer à développer ces dessins animés. L'idée là, c'est que je fasse au moins 2 dessins animés par semaine pendant un an, parce que je l'ai jamais fait pendant un an. Genre que je loupe aucune semaine, on va voir si j'y arrive.
Mais comment tu le vis, justement, le fait d'avoir été au conservatoire, d'avoir eu des grands rêves d'acteur, puis finalement de t'être retrouvé dans un collectif YouTube, de passer à cette fame de YouTuber avec des gens qui vous reconnaissent dans la rue. À un moment, vous étiez très connus. Je me souviens, tu te souviens pas, on était allé boire des verres avec Bertrand et Johan, et la meuf, ta meuf de l'époque. Et en sortant, mais il y avait des bandes de jeunes qui vous accostaient. Ça, c'est toujours le cas. On te reconnaît toujours autant dans la rue.
Une fois sur, allez, je dirais en moyenne, on m'arrête 3 fois tous les 2 jours en moyenne.
Ouais, quand même.
C'est une moyenne. Hein.
Ouais, mais c'est ouf. C'est vachement bien.
Mais après, pas forcément. Yes, vous aime parfois.
Ouais.
Les cartoons de temps en temps et ça me fait ultra plaisir.
Ok.
Mais
trop
c'est
bien.
Pas le mieux. C'est pas le plus. Ce qui arrive le plus, c'est ah, t'es le mec qui a joué dans le sketch du monde à l'envers, ou ah, t'es le mec qui a joué dans Cocovoite.
Ok.
Voilà.
Ouais. Et bim, et monde à l'envers, ok.
Et puis des fois aussi le mec de Brute.
Ouais. Ouais. Et donc cette fame de YouTube, et maintenant aujourd'hui, comment dire, ça doit être hyper addictif, justement. Est-ce que ça, justement, ça déplace pas tous les rêves que tu avais du conservatoire et de, tu vois ?
En fait, le dessin animé, c'est un rêve en soi. Et je trouve que c'est con, mais un bon dessin animé, C'est d'abord des acteurs qui doublent bien, et des acteurs qui doublent bien, c'est des acteurs qui savent jouer. Mmh. Donc en fait, moi je double, je demande à mes amis acteurs de doubler. C'est tous des acteurs que j'ai rencontrés sur scène ou ici et là. Et en vrai, ce que j'ai appris du conservatoire me sert encore pour les dessins animés, par exemple. Il y a aussi ce qu'on a appris, bon, bah, ça, c'est, je le dis tout le temps, mais avec les Yes Vous Aime, on s'est rencontrés en cours de clown. Le cours de clown nous a commencé à nous aiguiller sur ce qu'est l'humour et du coup sur ce qu'est la dramaturgie de manière générale. Et ça, pour les sketchs, les dessins animés, je le réutilise aussi. Donc en vrai, tout ça m'aide beaucoup.
Ouais,
je suis très contente de ce que j'ai fait.
Ouais, ouais.
Et puis le théâtre, j'en ai fait. Très honnêtement, je touche du bois parce qu'on ne sait jamais, mais j'en ai fait beaucoup.
Ouais.
Et j'en ai fait beaucoup pendant 10 ans. Il y a même une ou deux années où j'ai fait 4 spectacles par an.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Et j'ai senti, dernièrement, alors que je n'ai que 35 ans et peut-être je vais la regretter, une petite lassitude. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Peut-être, ça y est, t'as fait le tour. Ouais. Peut-être pas, mais
Est-ce
voilà.
Est-ce que c'était par rapport au spectacle en soi? Moi, c'est aussi pour ça que je suis allée vers le stand-up, parce que la plupart du temps, quand j'allais au théâtre, je me faisais chier. Mmh. C'était très rare que j'aille au théâtre et que je me disais « Oh putain, je rêverais de faire ce... » En fait, j'avais plus des fantasmes de lieu, de théâtre, tu vois. C'était plus finalement la cour des papes que tel metteur en scène, ou alors c'était des choses que j'avais vues, mais des metteurs en scène qui étaient morts, tu vois, genre Vitesse, tu vois, Anna Strancard dans Lucrèce Borgia. Ça, je me disais, oh waouh, ça avait l'air dingue. Mais c'était rare que je vois, que j'aille au théâtre, à l'Odéon, ou n'importe où, tu vois, à la Colline, et que je me dise, oh, je rêverais, je ressentais ça, le seul. Avec les Chiens de Navarre, tu vois, c'était presque la seule troupe de théâtre où je me disais, oh, ok, ça. Ça me fait aimer le théâtre plus que tout. Mais en fait, à part eux, j'avais... Guillaume Vincent, quand même, je trouvais ça toujours exceptionnel. Je trouvais ça beau. C'était quand même des super projets. Non, c'est un putain de metteur en scène. Ostermayer aussi. Mais plus dans un truc avec un effet waouh, tu vois. Avec un effet de ça en jette. Bien sûr que toi aussi, t'as envie de porter cette longue robe à paillettes, etc. Mais finalement, je crois que ce que j'aimais presque le plus, c'était ce qu'on faisait dans les soirées plaisantes, en fait. Parce que j'aurais aimé qu'on fasse ça dans de plus grands lieux. Enfin, tu vois, c'est vrai, quoi. C'est que j'avais ramené mes... Tu te souviens qu'on avait joué au saut gymnase ?
Oui, ça me dit un truc, oui.
Au théâtre du gymnase, dans la petite salle, tout en haut ?
Oui, ça y est, je me souviens, ouais, très bien. Mais en fait, je jouais pas ça, c'était une 3e édition. J'étais venu vous voir.
C'était un dimanche après Drucker ?
Ouais, c'est ça, voilà.
T'étais pas dedans ?
Non, parce que je pouvais pas.
Ah ouais, ouais. Et bah, c'était drôle, hein, dimanche après Drucker. Et c'est vrai que j'avais invité mes tantes qui m'en parlent encore. Et c'est vrai que ça, je me disais, oui, en fait, c'était ça, ce qu'on faisait là, c'était tellement drôle, j'aurais bien vu jouer ça. Mais c'était rare que... Est-ce que toi, tu continues de t'émerveiller quand tu vas au théâtre, à voir des choses, tu te dis « waouh ». Enfin, tu vois, c'est comme finalement la Comédie Française. La Comédie Française, genre le lieu, faire partie de la troupe de la Comédie Française, sublime, incroyable. Mais les pièces que je vois à la Comédie Française, c'est rare. Mmh. Ça arrive, mais c'est rare que je me dise « oh, ça, je rêverais de participer à ça ».
Ça pourrait m'arriver, mais le problème, c'est que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas été au théâtre. Je suis assez un mauvais élève sur ce point. D'autant plus que c'est l'excuse que tout le monde utilise, mais le Covid a fermé les salles pendant un an, du coup, j'y ai vraiment pas été. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un spectacle qui m'a émerveillé. Le dernier en date, c'est celui de Guillaume Vincent, Songes et Métamorphoses. Voilà, c'était le dernier en date où je me suis dit, ah ouais, on peut faire de grandes choses au théâtre. C'était très très beau.
J'avoue, j'avais beaucoup aimé celui de... Comment on dit, Julien Gosselin, Les Particules élémentaires, ouais. Aux Ateliers Berthier, c'était ça ?
Oui, c'était ça,
ouais. Ouais, c'était vraiment très bien.
Je ne l'ai pas vu.
Ouais, c'était vraiment... Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il faut... Il y a un spectacle qui te marque, qui est extraordinaire. Pour combien de spectacles où tu t'endors, où tu te fais chier, où tu trouves... Je trouve que c'est l'un des trucs qui m'a amené vers le stand-up, c'est cette espèce de lassitude... À peut-être trouver que c'était dur de trouver en France un bon théâtre du milieu, en fait, un bon théâtre exigeant de qualité et aussi divertissant. Et en plus, moi, j'ai eu une overdose parce qu'à un moment, je faisais partie de la commission dramatique de l'ADAMI. Donc, on donnait des subventions à des projets qu'ensuite, j'allais voir. Et j'avais chaque fois envie de me suicider.
Te suicider.
Ouais.
D'accord.
Mettre fin à mes jours.
Ah ouais. Ouais, ça devait être hardcore.
Bah, ouais, c'était vraiment... Mais bon, après, c'est pas... Il y a d'autres trucs... Non, il y en a qui étaient bien. Lorraine de Sagazan, j'adore ce qu'elle fait.
J'ai pas vu encore.
Ouais, c'est vraiment très
fort. Il paraît que c'est très bien, oui.
Ouais. Il y en a, tu vois, j'ai hâte d'aller voir Thomas Poitevin dans son spectacle. Thomas qui faisait les perruques pendant les confinements. Il fait une tournée des CDN. J'y vais à Saint-Ouen, j'ai hâte. Je pense que ça va être exceptionnel. Mais je trouve que voilà, c'est plus rare de trouver des choses exceptionnelles au théâtre. Alors qu'au stand-up, en fait, il y a des trucs nuls. Mais j'avoue que j'ai l'impression que le moyen passe beaucoup mieux. En fait, il y a plein de gens qui me font rire. C'est plus rare que je trouve ça nul. Tu vois, enfin, en fait, je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a un... pas que sur les plateaux, parce que j'en ai vu un paquet de spectacles. En fait, quand j'ai commencé à aller voir des spectacles de stand-up, j'ai vu un paquet de gens hyper talentueux.
Ouais.
Et c'était l'effet inverse, en fait. C'était le minimum. C'était rarement de la merde et c'était plus souvent... spectacle de Charles et Soignon, extraordinaire. Tu vois, spectacle de Thomas Wiesel, de Yacine Bellous, enfin tu vois, il y avait énormément de qualité, puis il y avait aussi ce truc peut-être d'avoir l'impression, la joie aussi de voir des publics plus jeunes, de voir des publics qu'on n'avait pas dans nos salles. Je me souviens quand je jouais à l'Odéon, c'était qu'un public de gens de cheveux blancs, quoi.
Bien sûr.
Tu vois, et ça, je me disais, putain, c'est trop bien, toucher aussi avec le théâtre des gens de notre âge. Ça, c'était le truc cool. Mais après, ouais, je comprends que tu passes par une lassitude du théâtre.
Mais une toute petite, et j'ai... Voilà, quoi. Mais parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses aussi, c'est pour ça. J'aurais envie d'être que acteur, il n'y aurait pas de problème. Mais j'ai envie de faire plein de choses. C'est pour ça.
Non, mais c'est cool, c'est excitant.
Ouais, carrément, c'est cool.
Et t'en es où, tes amours? Là, t'as une meuf en ce moment?
Non.
Ah ouais? C'était la dernière fois qu'on a dîné ensemble, c'était quand
C'était qu'on a dîné ensemble?
Ouais. Je te souviens pas, on s'est retrouvés vers Répu, on allait dîner dans un truc italien.
Ah oui. Et quoi, j'avais une meuf?
T'étais maquée ou tu venais juste de te séparer? Tu m'annonçais que tu t'étais
plus... Je crois
plus...
que je venais juste de me séparer.
Tu venais juste de te séparer. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, en fait, toi, t'enchaînes souvent les relations de 2 ans.
Non, mais en fait, je vais arrêter. J'arrête. Je suis pas très. J'aime pas trop. J'ai plus envie de trop me mettre en couple.
Ok. Tu veux passer par une phase plus libre?
Ouais.
Ouais.
J'ai...
Peut-être que t'es polyamoureux?
Je sais pas. Je crois pas. Je crois même pas.
Même pas.
Même pas. Non, je suis très solitaire et célibataire. Ouais. Et j'aime bien.
Ça te fait pas flipper quand tous nos potes qui font des gamins?
Pas du tout. Ouais. Pas du tout.
Ça te donne pas
au
envie?
Contraire.
Au contraire, ça te...
Je rigole, je plaisante, c'était pour les charrier. Non, je suis très content pour eux et c'est trop bien ce qui leur arrive. Mais je veux pas... j'aime bien ma solitude. J'aime beaucoup être seul.
Et comment tu définis l'amitié? C'est quoi tes relations d'amitié et est-ce qu'elles sont différentes avec les hommes et avec les femmes?
Mes relations d'amitié?
Ouais.
Franchement, je sais pas. J'arriverai pas à définir. Je sais pas si on s'entend bien, s'il y a un respect mutuel, s'il y a aussi une admiration mutuelle. Non, mais après, je peux aussi être ami avec. Ça, c'est aussi peut-être mon problème. Je peux être ami avec. Avec des gens. Des fois, en tournée, on se retrouve dans des petits villages, dans des petites salles. Et on se dit, ah tiens, c'est marrant, c'est quoi ce village? Et tu rencontres des gens du coin, quoi. Des gens, des paysans, des, des fermiers, des gens qui tiennent des chais. Et c'est con. Et c'est con, je me dis, si je restais plus, on pourrait devenir amis. Mais on doit repartir le lendemain et tout. Et je me dis, oui, en fait, je sais pas.
Mais ça, c'est trop beau. Ça, c'est la rencontre du public.
C'est la rencontre du public.
Non, mais ça, c'est sublime.
Oui, carrément.
Mais c'est différent, c'est pas des relations.
Non, c'est pas
pourquoi,
des relations d'amitié.
Quand j'ai l'impression que les relations d'amitié, c'est quand même très lié à la jeunesse. Je me dis, aujourd'hui, à l'âge adulte, se faire de nouveaux amis, ça arrive. Mais en effet, c'est souvent des rencontres à la base qui partent de relations de travail. Moi, ça m'est arrivé là récemment. J'ai tourné cet été dans un court-métrage à La Réunion. Et je suis vraiment tombée en amitié des deux actrices, Bérangère MacNiz et Barbara Butch. Et en effet, c'est parce que tu passes 10 jours à vivre dans une maison ensemble, à tout se raconter et à travailler jusqu'à tard dans la nuit, à avoir des fous rires. Et ça crée une intimité, mais c'est hyper rare ce cadre-là. Sinon, tu vois, je deviens amie. J'ai des amis humoristes maintenant, mais c'est quand même des camarades. Je peux pas. J'ai peut-être une barrière de pudeur. Mais sinon, tu vois, mes amis, c'était des amis d'école, en effet. J'ai revu, quand j'étais à La Réunion, mon pote Kevin.
D'accord.
Et c'était génial parce que, en fait, je sais plus, on a passé une soirée ensemble, mais après, on s'est envoyé des messages. Puis, il m'a écrit « Je t'aime, mon ami ». Et je trouve ça hyper beau aussi. Enfin, pour moi, c'est hyper précieux, mes relations d'amitié avec les hommes. Mais j'ai l'impression que c'est lié que à la jeunesse, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les mecs, tu vois, si on devient... Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, mes rapports avec les hommes sont beaucoup des rapports de séduction, des rapports de cul et des rapports de relations. Et que résultat, le seul moyen d'apaiser ça, c'est ou des relations professionnelles. Sauf que souvent, tu réalises les relations professionnelles, que ça se passe bien, puis après, le mec est là. En fait, est-ce que tu veux baiser ? T'es là, ah, ok. Et donc, les relations d'amitié dénuées de tensions sexuelles entre hommes et femmes, c'est quand même hyper précieux et c'est devenu hyper rare dans ma vie. Pas toi ? Non ?
Oui, si. Non, mais heureusement, ouais. Toutes mes amies filles qui disent « Attends, quoi ? Il y a des tensions sexuelles ?» Non, bien sûr.
Toi, t'as plein
c'est
de potes
vital.
Meufs ? Ouais.
Mais oui. Dans notre milieu, en plus, on est amené à rencontrer des gens de toute forme de sexe. Et
oui.
Heureusement.
Non, mais c'est ça aussi. C'est que moi, j'ai changé de milieu. C'est que moi, j'étais dans ce milieu, voilà, etc., d'école de théâtre avec 50% de gays. Puis on se met tous à poil les uns devant les autres. Je m'étais foutue à poil au bout quand il faisait chaud.
Enfin, ah bon
j'avais chaud. Et après, t'arrives dans le milieu du stand-up où c'est quand même plus alpha, tu vois. C'est moins évident, tu vois. Donc, c'est aussi d'autres... Ouais, c'est très loin de d'Avignon, quoi. Bon, je vais passer au petit questionnaire de Proust.
D'accord.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
La qualité que je préfère chez un homme ? Qu'il se lave.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
Vas-y, je retire ce que je viens de dire, c'est peut-être un peu hardcore.
Non, c'est drôle.
Oui, qu'il se lave.
La qualité que tu préfères chez une femme ? Qu'elle se lave.
Qu'elle se lave, c'est bien qu'elle se lave.
Le principal trait de ton caractère ?
Le principal trait de mon caractère ?
Ouais.
Oh mon Dieu, j'en sais rien. J'ai envie de dire calme, mais je ne suis pas tout le temps calme.
Hypersensible ?
L'hypersensibilité. Non, la solitude. Mais c'est une qualité pour moi.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Qu'ils soient mes amis.
C'est-à-dire ?
Attends, j'essaye de rendre les choses alambiquées, mais c'est pas ouf. Non, je sais pas. C'est quoi ? C'est la principale qualité de mes amis ?
Oh, ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Je sais pas. Qu'on passe des bons moments ensemble. Ça te va, ça ?
Oui. Ton principal défaut ?
Je suis peut-être trop honnête. Non, je rigole. Dans la télé-réalité, ils disent souvent ça, alors que c'est une qualité. Non, mais j'en sais rien. Je suis peut-être un peu...
Quand tu te sépares avec des meufs, c'est quoi ce qu'elles te reprochent ?
Que je suis... Que je pense trop à mes trucs, que je suis trop égoïste, que je suis trop solitaire. Voilà. Bon, du coup, ça devient... C'est plus une qualité, là. C'est un défaut. Voilà.
Ton occupation préférée ?
Les jeux vidéo ou Photoshop et After Effects.
Waouh !
J'adore faire ça. Je me suis pris... C'est une passion.
Ah ouais ?
Ah ouais.
C'est génial d'avoir ce talent-là. Putain.
C'est pas un talent, c'est les tutos YouTube. J'ai appris grâce aux tutos YouTube. Vraiment, je ne savais pas le faire avant. C'est incroyable, YouTube. C'est mieux que l'école.
Ouais.
Je vais me faire défoncer par tous les incites de France, mais je le pense. C'est mieux que l'école. On peut apprendre beaucoup de choses. Plutôt que Christophe Colomb.
Ton idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur, j'en sais rien. Je sais pas, parce qu'il paraîtrait que même quand on est heureux, la seconde après, on se dit, mais combien de temps ça va durer ? Donc, est-ce qu'on est éternellement heureux ? Je sais pas. Moi, je dirais la gloire et l'argent.
Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être ?
Ah, j'aimerais bien être... J'aimerais bien être Sherlock Holmes. Mmh. Voilà. Ça a l'air cool d'être Sherlock Holmes.
Grave.
Ça a l'air cool de marcher et de dire, tiens, je suis... Et de se regarder résoudre. Dans le miroir.
Et puis résoudre toutes ces enquêtes.
Alors, résoudre les enquêtes, c'est une chose, mais déjà, juste le paraître. Ouais. Et que les gens disent, hey, monsieur, vous êtes Sherlock Holmes. Je dis, oui, c'est moi, effectivement. C'est
avec le manteau, avec et le chapeau, et les lunettes, la loupe.
Voilà. Ouais. Et d'arriver, et tu sais, sur les scènes de crime, d'arriver, on dit, vous êtes qui ? Vous n'avez pas le droit de passer, les flics. Et tu dis, je suis Sherlock Holmes. Dis, c'est bon, monsieur, vous pouvez passer. J'aimerais tellement faire ça.
Grave.
Ça sert à rien, c'est du prestige, hein, vraiment.
Ouais, c'est du le vent. Prestige.
Mais bah, du coup,
c'est de la personnalité, ouais.
En vrai, c'est un rôle que j'aimerais bien jouer, ouais. Sherlock Holmes.
Ouais.
Beaucoup.
Ouais.
C'est... ouais.
Où aimerais-tu vivre ?
Sur une planète lointaine. Non, je sais pas. Au Japon. Et en même temps, j'ai peur de... J'aime trop mon appart et j'aime trop mon treuil. Mais voilà, ouais, au Japon. Allez, au Japon.
T'as bien vécu les confinements ?
Oui, très bien. Très, très bien. Merci.
Moi aussi.
Ouais.
Ouais.
Bah, c'est là que j'ai créé les cartoons, du coup.
Mais oui. On s'était eu au téléphone, je n'avais pas parlé d'un projet avec des Anglais. Si, t'étais si, pas venu,
On avait même tourné.
On avait même tourné un truc, ouais.
Par
Zoom.
Par Zoom. Ouais.
J'ai jamais eu de nouvelles d'eux, ouais. C'était un. Excuse-moi, c'était un
mais
projet.
Non, je t'en prie. Pas de problème.
Mais il m'avait dit, est-ce que tu connais un bon acteur ? Et j'avais pensé à toi.
T'es gentil.
Tes prénoms préférés ?
C'est trop bizarre. Les gens n'aiment pas trop ce prénom, mais je l'aime bien, moi. Mathilde. J'aime bien ce prénom. Oui.
C'est souvent le prénom de tes personnages.
Oui,
t'as souvent
vrai.
Des personnages qui s'appellent Mathilde.
C'est vrai.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
La xénophobie.
Un don, un talent que tu aimerais avoir à paraître Sherlock Holmes.
J'aimerais mieux savoir dessiner. Je regrette de ne pas avoir pris le temps. Il y a un moment qui a été déterminant dans ma vie où j'ai commencé à dessiner et à m'améliorer, puis j'ai tout arrêté. Et je me dis, ah, c'est con de ne pas l'avoir poursuivi. C'est pas grave. Mais c'est ça. J'aimerais bien savoir mieux dessiner. Beaucoup mieux d'être un grand artiste de dessin et de le faire vite fait. Mais c'est pas le cas.
Comment aimerais-tu mourir ?
J'aimerais beaucoup mourir dans une station spatiale. Loin, loin, loin. J'arrête tellement. Mais c'est impossible.
Ton état d'esprit actuel ?
Ça va, tranquille. Plutôt tranquille.
Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite ?
Une devise ?
Ouais. Une expression.
Sacré-moi, sacré-toi, je dis souvent ça. Sacré-lui.
Sacré-toi, Mustapha. Merci.
Mais merci à toi, Rosa.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'enregistre cet outro très très tard parce que les journées sont longues et parce que c'est excitant, il y a beaucoup de boulot en ce moment. Mais je suis assez fatiguée et en même temps heureuse que la reprise soit si pleine et que ça commence si bien, si fort à la nouvelle scène. Il y a tous les plateaux. Hier, j'en ai fait un avant d'aller au spectacle et un après. Et aujourd'hui, il y avait le Paradis Festival à la Villette. Et ensuite, je suis allée au Fridge. Et pour finir, j'ai fait deux plateaux au Fridge, celui de 20h et celui de 21h de Fanny Spinetta, le Paillette Comedy Club, et c'était une ambiance de folie. Si jamais vous voulez voir du burlesque, et ben vous pouvez aller voir le plateau de Fanny Spinetta. Et elles ont aussi un spectacle, il y a un cabaret burlesque à la Nouvelle Scène, les vendredis et samedis soirs après mon spectacle. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un spectacle génial. Peut-être que c'est la fatigue, mais je suis un peu triste. Vous savez, voilà, je suis toujours sincère avec vous, donc je vais partager ça avec vous. J'ai reçu un texto. Voilà, ce soir, d'une programmatrice d'un comédie club parisien, dont je ne vais pas citer le nom, très en vue, très en vogue, dans lequel je n'ai jamais joué. Et j'ai exprimé l'envie d'y aller, je l'ai exprimé. Alors, je ne sais pas si c'est lié au texto que j'ai reçu ce soir, et sans citer personne, je vais vous le lire. Bonsoir Rosa. J'espère que tu vas bien. J'ai eu ton numéro par... Bip. J'ai eu des retours sur le fait que tu demandes si je programme des femmes au... Bip, le Comedy Club. J'ai cru comprendre que c'était une question importante pour toi. Je programme évidemment des femmes, des artistes confirmés, avec spectacle et ou en préparation d'eux. On m'a fait part de ton envie de jouer au Bip, et nous sommes ravis de susciter cette envie, mais j'ai vu ton travail avant Covid au Jardin Sauvage et ça ne rentre pas dans le cadre de ma programmation. Je reste attentive à ce que tu fais, comme pour la plupart des humoristes. Belle soirée. Bon, je reçois ça. Voilà ce que j'ai répondu. Bonsoir. J'allais souvent tester au Jardin Sauvage. Je ne crois jamais par contre avoir fait un set sûr là-bas. Donc j'espère que tu auras un soir de libre pour venir voir mon spectacle à la nouvelle scène. Je serai très heureuse d'avoir tes retours. Oui, je trouve que le milieu du stand-up peut être dur pour les femmes, mais je comprends qu'il faille un très bon niveau pour jouer au Bip. Je travaille dur pour atteindre ce niveau. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire et j'espère que mon amertume parfois du manque de mixité sur les plateaux n'a pas été mal interprétée. Comme tu le dis, c'est de l'envie. À bientôt, j'espère, Rosa. Et je reçois cette réponse. Je suis une femme et je travaille dans ce milieu depuis 9 ans. C'est aussi dur à mon échelle. Je ne programme pas que le Bip et créer des quotas de femmes n'est pas mon fonctionnement. Je ne doute pas de ton travail et te souhaite une réussite. À très vite, j'espère. Bon, on va dire que c'est la fatigue qui me met dans cet état. Mais je trouve quand même aussi qu'il y a une violence dans ces messages. Parce que je trouve ça tellement rapide de me juger. Enfin, justement, au Jardin Sauvage, c'est pile le lieu où j'allais souvent. C'est un plateau, il y a beaucoup de... Il y a le Breaking News, qui est un plateau de David sur lequel on fait des tests sur l'actu. Donc j'ai du mal à me souvenir d'un passage où je me suis dit « Ah oui, c'est ce soir-là que j'ai envie d'inviter une super pro pour qu'elle me programme dans son putain de comédie club. » Donc je me sens un peu jugée vite... et pas de façon très légitime. Et puis cette histoire de quota... Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement ringard, en fait, comme manière de penser. Mon père est comme ça aussi. Mon père va critiquer le fait que Titane ait eu la Palme d'Or. Ah ouais, c'est pour le quota, c'est pour faire plaisir. Je crois qu'il a fait une remarque pareille pour le film d'Audrey Diwan à Venise. Et je trouve ça violent, quoi. Parce que, en fait, cette manière de penser est tellement... ancestral, en fait, ça veut dire que si vous voulez pas faire de quotas, c'est chacun se démerde, mais en fait, si vous nous donnez pas de chance, si ces gens-là ne donnent pas de chance, eh ben, on s'améliorera jamais, en fait. Parce que l'idée, c'est faire des quotas comme si on n'avait pas le niveau. Et cette programmatrice dit qu'elle met des femmes, c'est pas vrai. À chaque fois que j'ai un pote qui va jouer là-bas, je lui dis « Ah ouais, il y avait des meufs sur ton plateau ?» Non. Enfin, il y en a 4 qui jouent dans ce comedy club. Il y a 4 humoristes extrêmement connus qui y jouent. 5 max. Et donc c'est de la mauvaise foi. Et j'ai essayé de rester, comment dire, respectueuse et modeste dans mon texto. Parce que justement, je pense que j'ai peut-être même pas le niveau, que je suis pas assez forte encore pour jouer là-bas. Vraiment, sincèrement. Mais j'ai l'impression que moins on est programmé, moins on a d'opportunités, et bah moins on a de chance de devenir forte. Et que la barre est tellement haute, en fait, et que c'est une pression d'être une seule femme sur un plateau, entourée de mecs, en fait. C'est une pression d'arriver et vraiment, quoi. Et ce soir, sur le Comedy Club de Fanny Spinetta, c'était des paillettes, le burlesque, c'était incroyable, c'est une ambiance de folie, c'était ultra, ultra LGBT dans la salle, enfin, c'était marrant, quoi. Il y avait un numéro de drague, et c'était cool, quoi. Je sais pas, c'était inclusif, c'était génial, et je me sentais bien, et puis tout d'un coup, mon univers fonctionnait vachement, mes blagues étaient hyper bien reçues, j'avais pas l'impression de choquer, d'être sale, au contraire, en fait, ils voyaient que tout venait d'un endroit d'amusement et de plaisir, donc j'espère que, voilà, via le podcast, je continuerai à rencontrer mon public, enfin, le public, et à la nouvelle scène, je sais que je suis au bon endroit, Mais en tout cas, je paye cher mes engagements on est au mois de septembre, on arrive au mois d'octobre, je paye encore la story que j'ai faite avant les vacances où j'avais dénoncé, le sexisme en taguant des mecs et en disant « vous les restez entre couilles » puisque certains de ces mecs étaient des potes avec qui j'en ai pu en parler de vive voix et d'autres que je ne connaissais pas et que j'ai croisés de loin cet après-midi et qui m'ont à peine salué. Donc c'est dur quand même. Parfois je me dis « est-ce que... » À quoi ça sert ? À quoi bon ? Mais bon, je vais m'accrocher et j'ai des amis, j'ai des alliés. La plupart des humoristes sont gentils et sont des copains, et dont Seb Melia. Cet épisode avec Mustapha, je voulais que ce soit un épisode sur l'amitié et je voulais qu'on se rappelle un peu nos folies de jeunesse. Je suis quelqu'un de très violent. Et donc parfois mes engagements sont violents et j'ai du mal à mettre peut-être de l'eau dans mon vin. C'est difficile de... Mais bon, c'est comme ça. Désolée, c'est une fin d'épisode un peu en bad, mais ça va aller. C'était tellement génial de jouer mon spectacle. J'ai envie de finir sur une note plus positive. Peut-être que j'abandonnerai les plateaux. Peut-être qu'un jour, je ferai plus que mon spectacle. Mais j'ai encore envie d'y croire. J'ai encore envie d'y croire et je vais bientôt lancer le mien. Et j'ai besoin d'être appelée, d'être inclue, d'être connectée. Je pense que au-delà de mes convictions féministes, il doit y avoir quelque chose de très égoïste dans la peur d'être rejetée, dans la peur de ne pas être admise. Il doit y avoir une volonté chez moi de rejoindre la bande des cools, quoi. Comme quand j'étais au collège et que j'étais la faillotte et que les cools et les populaires traînaient entre eux et que j'étais déléguée pour aller leur parler et que j'avais envie d'appartenir. Et j'ai encore ça. J'ai encore ça. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et là, je me plains parce que je ne suis pas, programmée sur ce comédie club dont le niveau, en effet, est extraordinaire. Le niveau des humoristes qui passent là-bas est extraordinaire. Et je ne l'ai pas. Niveau plateau, je suis au top dans mon spectacle, qui est vraiment super. Et je l'ai encore revu là. Et franchement, je suis fière de mon spectacle. Vraiment, vraiment, je l'aime. Mais sur 10 minutes, je ne suis pas au même niveau d'efficacité, c'est clair. On n'arrive pas à adhérer forcément à mon univers en 7 ou 10 minutes. Ça prend une heure. C'est comme pour jouir, il faut du temps. Ben, j'ai du mal à avoir un orgasme rapidement. J'ai besoin de temps. Mais je suis produite, et ça, c'est quand même une chance extraordinaire par rapport à la plupart des humoristes. Je suis produite maintenant chez À Mon Tour Prod, Alex Mortier, Juliette Rime, Bérangère, ils m'ont offert des cadeaux de première. Mes producteurs, j'ai du magnifique thé, mariage et frères, une magnifique bougie, des tasses, des pleins de cadeaux, des fleurs. Je veux dire, je suis gâtée. Le podcast de Seb Melia m'a fait gagner plus de 1000 followers. Et puis, concrètement, je suis ultra programmée. Là, je fais 2 à 3. En fait, je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire plus de plateaux. Là, je ne peux pas. Demain, je dois faire 150 000 trucs. Mais j'ai peur aussi. J'ai aussi une angoisse de disparaître. Et d'où le fait que je vous avais dit cet été, je vais un peu espacer les épisodes. J'aurai pas le temps. Et non, j'ai pas le temps, mais j'ai aussi peur de les espacer. Et je me dis, il faut que je sois là. Il faut que je sois là une fois par semaine avec les mecs que je week-end. Sinon, je vais disparaître. Et donc, j'espère que les épisodes vous plaisent et je pense que on rencontre les personnes qu'on doit rencontrer et il faut pas forcer. Voilà, il faut que parfois aussi là où je suis pas voulue, et ben c'est pas grave. Et on peut pas plaire à tout le monde et il faut essayer d'aller vers ceux qui nous aiment. Je vais essayer d'aller vers ceux qui m'aiment. Et vous, je vous aime. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Tyler Cetus.
I'm Kayla Tsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits.
Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.